VOA Afrique, les infos, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi VOA Afrique, Nanit Talani, pour ce bulletin d'information. Il est 14h en temps universel, 17h à Nakasongola et Wakiso, c'est dans la région du centre en Ouganda. Outia de reprise des travaux du dialogue ce jeudi, après 3 jours de suspension pour permettre au comité d'organisation de faire un réajustement interne. Les travaux du dialogue national inclusif et souverain avaient repris mercredi, hier, dans l'après-midi à N'Djamena, mais ces assises ont été très vite suspendues alors que les participants s'apprêtaient à évacuer les 2 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'amendement du règlement intérieur et la mise en place du présidium. Donc, les travaux reprennent donc ce jeudi. Le président français Emmanuel Macron entame une visite officielle de 3 jours en Algérie. Paris entend tourner la page des brouilles et a refondé une relation qui reste marquée par le poids du passé colonial. Les principaux sujets à l'ordre du jour de la visite sont tête-à-tête à la présidence entre Macron et Tebboune, mais ils vont discuter surtout de la situation au Mali, où l'armée française vient de se retirer, mais aussi de l'influence russe, grande alliée de l'Algérie et son premier fournisseur d'armes. En Angola, à plus de 86% des votes dépouillés, le MPLA, le parti au pouvoir, est en tête avec 52,08% des voix selon la commission électorale au lendemain des élections législatives. Ces résultats encore partiels indiquent que le président sortant, João Lourenço, se dirige vers une victoire sur son rival de l'opposition, Adalberto Costa Junior. Quelques 14,4 millions d'électeurs étaient attendus dans 26 bureaux de vote hier. Il n'y a pas d'élection présidentielle en Angola. C'est le candidat du parti vainqueur aux législatives qui est automatiquement investi chef de l'État. La communauté internationale inquiète sur l'incertitude de la situation au Tigré au lendemain de la reprise des combats en Éthiopie entre l'armée fédérale et les rebelles du TPLF, une reprise qui a mis fin à 5 mois de trêve dans le nord du pays. L'Union européenne appelle toutes les parties à désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère à nouveau en guerre. Washington exhorte les deux parties à mettre fin, une fin définitive au conflit, rappelant que la reprise des combats met en danger la trêve conclue fin mars, qui a réduit la violence, mais aussi sauvé des vies.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
La centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, la plus grande d'Europe, sous contrôle russe et victime de plusieurs bombardements, est totalement déconnectée du réseau après l'endommagement des lignes de communication, annonce ce jeudi l'opérateur ukrainien Energoatom. Les 2 réacteurs de la centrale en fonctionnement ont été déconnectés du réseau. En conséquence, les actions des envahisseurs ont provoqué une déconnexion totale de la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique pour la première fois dans son histoire, indique le groupe d'État sur Instagram. La Russie affirme avoir frappé hier mercredi un train militaire sur une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine, en partance pour les zones de combat de l'Est et aussi avoir tué plus de 200 soldats ukrainiens, alors que de son côté, Kiev fait état d'au moins 25 personnes tuées. Un missile a directement touché un train militaire dans la gare de Tchapliné, soutient Moscou, qui dit avoir aussi frappé des équipements. L'Union européenne condamne ces frappes, affirmant que les responsables de ces bombardements russes devront rendre des comptes. Le président russe Vladimir Poutine a signé ce jeudi un décret pour augmenter la taille des forces des armées russes de 1,9 à 2,04 millions, rapporte l'agence de presse RIA Novosti. Ce nombre de militaires, donc cette augmentation, entre en vigueur le 1er janvier. Les musulmans rohingyas du Myanmar manifestent ce jeudi dans les camps de réfugiés du Bangladesh voisin à l'occasion du 5e anniversaire des affrontements entre les insurgés rohingyas et les forces de sécurité du Myanmar qui ont chassé des centaines de milliers de rohingyas de leur foyer. Plus d'un million de rohingyas vivent désormais dans le plus grand camp de réfugiés au monde dans le sud de Bangladesh avec peu de chances de retourner au Myanmar où ils se voient pour la plupart refuser la citoyenneté mais aussi d'autres droits. C'est tout pour ce bulletin d'information. C'était Nani Talani. Au revoir.
Soyez